pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Pour ou contre les forts de neige à l'école? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 20 janvier 2025 dans les As de l'info. Voici un scénario que tu connais bien. C'est l'hiver. La cloche de la récré sonne. Tu enfiles tes pantalons de neige et tu cours rejoindre tes amis pour construire un fort. Tu connais sûrement aussi ce scénario. À la récré suivante, vous retrouvez votre fort détruit. La suite, des chicanes et beaucoup de déceptions. Les forts de neige causent-ils plus de conflits que de plaisir? Devrait-on les interdire comme dans certaines écoles? C'est pourtant si amusant. Voici les arguments pour et les arguments contre les forts de neige dans les cours d'école. Les pour. Le jeu parfait pour l'hiver. Construire un fort, ça permet de vraiment jouer dans et avec la neige. On bouge, on se réchauffe et on prend l'air. On ne court pas, alors il y a moins de risque de glisser s'il y a de la glace. Ça favorise la collaboration. C'est une belle activité pour favoriser le travail en équipe et les discussions. On s'entraide, on parle, on se consulte. Pas de compétition ou d'équipe à former. De la première à la sixième année, tout le monde peut participer. Tant pis si le fort est détruit, on en reconstruira un à la prochaine récré. Bon pour la créativité. Le fort sera rond ou carré? Avec ou sans fenêtre? Et quelle forme auront les blocs de neige? Tout est possible. La neige permet de faire des essais, des erreurs et de recommencer. Et c'est tellement satisfaisant de construire quelque chose à partir de rien, de voir le fort prendre forme. Les contres. Ça fait des chicanes. C'est inévitable. Il y a des élèves qui prennent plaisir à détruire les forts. Ce n'est pas gentil ou juste, mais ça arrive toujours. Et c'est la source de beaucoup de conflits dans et à l'extérieur de la cour d'école. Ça peut être dangereux. Certains construisent quand même des tunnels dans les forts, même si c'est souvent interdit. C'est dangereux car ils peuvent s'effondrer sur nous. Même chose pour les forts à deux étages. En plus, les blocs glacés peuvent devenir des projectiles très durs quand la chicane éclate. On gèle dans nos habits tout mouillés. Le retour à la maison peut être vraiment inconfortable quand nos bottes, notre manteau et nos mitaines sont trempés parce qu'on a passé la récré assis dans la neige. Rien ne sèche dans les casiers. Toi, es-tu pour ou contre les forts de neige à l'école? Trois nouvelles scientifiques qui font sourire. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 15 janvier 2025 dans les As de l'info. Apprendre en s'amusant, c'est possible. La preuve, c'est trois nouvelles scientifiques surprenantes qui font sourire. Quelle élégance! Hein? Un phoque avec un chapeau de fête? Ginette Saunier, du Nouveau-Brunswick, pensait avoir la berlue. C'est elle qui a pris la photo juste avant Noël. On y voit deux phoques tout à fait normaux, sauf que l'un d'eux semble être coiffé d'un chapeau avec le numéro 66 dessus. Un autre phoque à chapeau avait déjà été photographié sur la côte nord en 2022. Cette fois, il portait le numéro 26. En fait, ce qui semble être un joli chapeau est plutôt un petit émetteur radio fixé avec de la colle sur la tête de certains phoques par des biologistes du gouvernement. Je te rassure, le petit émetteur se détache après quelques mois. L'appareil transmet aux scientifiques des données sur la santé de l'espèce, par exemple, la croissance, les mouvements et le taux de survie des bébés phoques. À tes souhaits, Belinda. En Colombie-Britannique, des chercheurs canadiens ont filmé une éponge de mer pendant 4 ans. Ils l'ont affectueusement nommée Belinda. Ils ont pu capter plusieurs de ses éternuements. Eh oui, les éponges éternuent. Des « hachoum » qui peuvent durer des heures. Autre observation, Belinda s'est contractée et est demeurée inactive pendant 2 mois en hiver. Ceci laisse penser que, comme les marmottes, les éponges hibernent. Punk et Imo, des fossiles de mollusques très stylés. En Angleterre, des chercheurs ont découvert et analysé des fossiles de mollusques vieux de 430 millions d'années. À l'aide d'un ordinateur, les scientifiques ont pu reconstituer leur apparence. Le premier fossile, avec ses épines dressées comme un mohawk, a été baptisé Punk Ferox. Le deuxième a été appelé Imo Vorticodum, en raison de ses épines inclinées vers le bas qui rappellent la coiffure Imo, qui consiste à balayer de longues mèches sur le côté de son visage. Comme tu peux le constater, les chercheurs aussi ont un sens de l'humour. Malgré ces noms rigolos, l'étude de Punk et d'Imo permettra d'en savoir plus sur l'origine des mollusques. Ils constituent l'un des plus grands groupes d'animaux sur Terre. Fait impressionnant, Punk et Imo ont vécu 200 millions d'années avant l'apparition des dinosaures. Et toi, as-tu déjà vu des squelettes de dinosaures ou des fossiles dans un musée? Les As du sport. L'incroyable Jacob Dobbs, une championne de 12 ans et d'autres nouvelles. Un texte d'Émeric Kepo, paru le 21 janvier 2025 dans les As de l'info. Le tricolore continue d'enchaîner les bons résultats. Plus que 3 semaines avant le Super Bowl, Ronaldinho à Québec. Il s'en est passé des choses cette semaine. Mais ce n'est pas tout. Cyclisme féminin, patinage artistique, soccer. Enfile tes running shoes, je te donne les dernières nouvelles. Le mur du Canadien. Depuis le retour du temps des fêtes, le Canadien est l'une des équipes avec le meilleur bilan de la LNH. 12 victoires et seulement 3 défaites. Le gardien de but, Jacob Dobbs, est clairement une des raisons de ce bilan exceptionnel. Depuis fin décembre, le gardien de but tchèque a joué 5 matchs avec le CH et il les a tous remportés. En tout, il a subi 134 tirs et il en a arrêté 126. On le surnomme le mur. Championne à 12 ans. À seulement 12 ans, Lia Chow a remporté les championnats nationaux canadiens de patinage artistique junior qui se sont déroulés à la Place Belle le week-end dernier. C'est la première fois que la jeune Canadienne de Calgary participait à une compétition junior. Après sa victoire, elle a déclaré à un journaliste qu'elle fêterait avec une pizza au fromage et des frites. Toutes nos félicitations à Lia. Côté senior, chez les femmes, c'est l'Ontarienne Madeleine Skizas qui a été sacrée championne canadienne. C'est la 3e fois qu'elle remporte ce championnat. Chez les hommes, Roman Sadovski a lui aussi reconquis son titre. Il n'avait plus gagné les championnats canadiens depuis 2020. Bonne nouvelle pour le cyclisme féminin. Malheureusement, dans la grande majorité des sports, les filles sont moins bien payées que les hommes. Ça fait plusieurs années que le cyclisme essaye de changer les choses. Depuis 2020, le salaire minimum des athlètes a doublé et chaque équipe féminine est maintenant affiliée à une autre équipe masculine. Ça permet aux équipes d'avoir une meilleure visibilité, plus de stabilité financière et aussi plus de sponsors. Et bonne nouvelle, pour la saison 2025, il y aura plus de compétition féminine puisque presque toutes les prestigieuses courses masculines auront aussi une catégorie féminine. Youhou! Alicia Roy se joint aux Roses de Montréal. Les Roses? C'est le nom de la future équipe professionnelle féminine de soccer de Montréal. À partir d'avril 2025, les Roses évolueront dans la Super League du Nord, un championnat qui regroupe 6 équipes professionnelles canadiennes. Le début de saison approche vite et les Roses continuent leur recrutement pour compléter l'équipe. La semaine dernière, l'équipe montréalaise a annoncé la signature d'Alicia Roy, une jeune milieu de terrain de 18 ans. La Montréalaise signe son premier contrat professionnel. Elle sera la plus jeune joueuse dans l'équipe cette saison. Félicitations, Alicia. Les Roses ont aussi annoncé la signature de Noémie Paquin. L'attaquante québécoise de 23 ans jouait depuis 3 ans dans la Ligue universitaire américaine. Paquin est la 10e joueuse confirmée des Roses. Une légende du soccer à Québec. Ronaldinho fait partie des joueurs qui ont marqué l'histoire du soccer. Le Brésilien a gagné le Ballon d'Or en 2005 et la Coupe du Monde en 2002, en plus de nombreux autres trophées. On le surnomme le magicien. Et pour l'avoir vu jouer, c'est vrai que c'est très impressionnant. Il peut faire ce qu'il veut avec le ballon. Ronaldinho était de passage dans la ville de Québec le week-end dernier. Il a donné une conférence devant plus de 600 jeunes. Il a expliqué que les sports sont très importants pour les enfants, pour apprendre à vivre avec un groupe. Le Brésilien a également signé plusieurs autographes et offert des maillots pour le plus grand bonheur de ses fans. En route pour le Super Bowl. Comme promis aux As, on a suivi les résultats des séries en NFL. Ce qu'il faut retenir, la grosse surprise, les Commanders de Washington ont battu les favoris, les Lions de Détroit, 45-31. On avait mis dans notre bingo la victoire des Lions au Super Bowl. On sait maintenant qu'on ne pourra pas cocher cette case. Mais bravo pour Washington. Ça fait 34 ans que l'équipe ne s'est pas rendue aussi loin dans les séries. Les Bills sont sortis vainqueurs du choc contre les Ravens. Les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie se sont qualifiés sans difficulté. En cas de victoire des Chiefs et des Eagles ce week-end, on pourrait avoir une reprise du Super Bowl 2023. Ou alors, on pourrait avoir une finale complètement inédite entre les Bills et les Commanders. On s'en reparle la semaine prochaine. Qui ira au Super Bowl cette année, selon toi? Des ados pourraient déterminer le prochain premier ministre du Canada. Un texte de Camille Lopez et Marie Bernier paru le 20 janvier 2025 dans les As de l'Info. D'habitude, choisir un premier ministre ou une première ministre, c'est réservé aux adultes. Normalement, chaque 4 ans, les Canadiens de 18 ans et plus votent pour la personne qui dirigera le pays. Mais, si je te disais que cette année, exceptionnellement, les ados de 14 ans et plus auront aussi leur mot à dire. Eh oui, on t'explique. Cette situation exceptionnelle est causée par une crise politique exceptionnelle. Revenons un peu en arrière. Depuis des mois, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, faisait face à des critiques au sein de son propre parti, le Parti libéral du Canada. Ses alliés exigeaient sa démission de son poste de chef du parti. Finalement, le 6 janvier, Justin Trudeau a cédé. Il a annoncé qu'il démissionnait. Il reste premier ministre jusqu'à temps que son parti choisisse son remplaçant. Les membres du Parti libéral doivent donc passer au vote pour élire un nouveau chef. Et, chose rare, ce chef deviendra automatiquement Premier ministre du Canada, puisque c'est le poste qu'occupe présentement Justin Trudeau. C'est comme un raccourci. Des règles différentes. Or, dans le Parti libéral, les règles pour voter ne sont pas exactement les mêmes que lors d'une véritable élection tenue à travers le pays. Il n'est même pas nécessaire d'avoir 18 ans. Pour participer au vote du chef libéral, il faut être membre du Parti libéral du Canada, mais pas d'un autre parti politique. Être un citoyen du Canada, résident permanent ou avoir le statut d'Indien. Être âgé de 14 ans ou plus. Donc, si tu me suis bien, le prochain chef du Parti libéral deviendra aussitôt Premier ministre du Canada et les ados membres du parti ont le droit de voter pour leur chef préféré. Par conséquent, les ados voteront en fait pour le prochain Premier ministre. Dans le cas d'un résultat très serré, leur vote pourrait même faire la différence entre un candidat ou un autre. Fou, non? Mais peut-être pas pour longtemps. On connaîtra les résultats de ce vote, et donc l'identité du Premier ministre, le 9 mars prochain. Mais il se peut que cette personne ne dirige pas le Canada très longtemps. Des élections fédérales sont attendues dès ce printemps. Là, toute la population du Canada, âgée de plus de 18 ans, pourra voter. Et comme c'est le Parti conservateur du Canada qui est favori en ce moment, c'est son chef, Pierre Poilievre, qui a de bonnes chances d'être élu et de remplacer le nouveau chef libéral tout juste arrivé. Psst! Tout le long du texte, il était écrit « chef » et « premier ministre » au masculin pour faciliter la lecture. Mais en fait, il est possible qu'une femme soit élue « chef » du Parti libéral et par conséquent devienne première ministre du Canada. Et toi, penses-tu que les ados voteront différemment des adultes? Pourquoi? Une entente de cessez-le-feu à Gaza donne espoir. Un texte de Caroline Bouffard paru le 17 janvier 2025 dans les As de l'Info. La nouvelle a fait le tour du monde mercredi. Après 15 mois de guerre, Israël et le Hamas ont accepté un accord de cessez-le-feu. Cet arrêt très attendu des combats permettra la libération des otages et des prisonniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce la fin de la guerre? On t'explique. Retour en arrière. Le 7 octobre 2023. Israël a été attaqué par le Hamas, un groupe terroriste palestinien. Plus de 1200 Israéliens ont été tués et 251 ont été pris en otage. Cela a déclenché une riposte d'Israël dans la bande de Gaza, la région où le Hamas est basé, pour tenter de complètement éliminer ses membres. Jusqu'à maintenant, cette guerre a fait plus de 46 000 victimes chez les Palestiniens. Elle a aussi provoqué un désastre humanitaire pour la population de Gaza qui manque d'eau, de nourriture et de médicaments. Le cessez-le-feu a débuté le 19 janvier. Israël et le Hamas se sont mis d'accord pour procéder en trois étapes. Voici les détails de la première étape. Durée de 42 jours, arrêt complet des combats, libération de 33 otages israéliens, libération d'environ 1000 prisonniers palestiniens. Départ de l'armée israélienne des zones peuplées de Gaza. Livraison d'aide humanitaire à la population. Et après les 42 jours, l'entente parle d'une deuxième phase qui devrait aussi durer 42 jours et pendant laquelle d'autres otages et des prisonniers seront libérés. La troisième phase servira à reconstruire Gaza. Mais les détails de ces deux phases doivent être négociés dans les prochaines semaines. Une entente fragile. ce cessez-le-feu était attendu depuis des mois. Des pays comme l'Égypte, les États-Unis et le Qatar ont travaillé activement pour que les deux ennemis finissent par s'entendre. Mercredi soir, dans son discours d'adieu aux Américains, le président Joe Biden a dit qu'il était fier du résultat obtenu par lui et son équipe. Mais la situation demeure fragile. Il faut absolument qu'Israël et le Hamas respectent l'entente pendant les 42 jours pour passer aux autres étapes. Il y a énormément de tensions entre les deux ennemis. Même après l'annonce de l'entente, il y a eu des attaques à Gaza qui ont fait des victimes, car le cessez-le-feu ne devait commencer que dimanche. C'est pourquoi on ne peut pas pour l'instant dire que c'est la fin de la guerre. L'équipe des As souhaite fort que la situation s'apaise et pense très fort aux enfants victimes de la guerre. Et toi, quels sont tes trucs pour régler des conflits dans la vie de tous les jours? Il était une femme, Kim, l'ouvreuse d'imaginaire. Un texte de Frédéric Lavoie paru le 17 janvier 2025 dans les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il était une femme à notre époque que des milliers et des milliers d'enfants, pour la plupart devenus grands, aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette femme était une conteuse. Avec ses histoires, elle avait ouvert la petite porte de l'imaginaire dans leur cœur d'enfant. Une porte qui, une fois ouverte, ne se referme jamais complètement. Cette conteuse s'appelait Kim. Elle était née, il y a très très longtemps, dans un pays lointain. Ses parents étaient des idéalistes, et il et elle voulaient changer le monde, le rendre plus juste et plus libre. Quand Kim était tout petite, sa mère refusait de lui acheter une poupée. Elle croyait que, pour être forte, affronter la dureté du monde et en bâtir un meilleur, Kim devait plutôt jouer avec des blocs de construction et des fusils-jouets. Mais Kim voulait vraiment une poupée. Tellement qu'elle s'est mise à habiller d'un linge tous les objets qui lui tombaient sous la main pour les transformer en poupées, y compris les fusils-jouets. Sa mère a dû se rendre à l'évidence. La persévérance de Kim à créer des poupées à partir de rien montrait qu'elle n'avait pas besoin de fusil pour survivre dans ce monde. À son 5e anniversaire, elle a offert à Kim sa première vraie poupée. Mais peu après, de grands malheurs se sont abattus sur la vie de Kim. Sa mère est décédée, puis son père. Et Kim a été envoyée à l'orphelinat. Heureusement, elle a ensuite été recueillie par sa grand-mère. Quelle joie de vivre avec cette grand-mère si bienveillante! Sous son toit, Kim s'est mise à dévorer des livres. Toutes les histoires fantastiques qu'elle lisait s'imprégnaient dans son esprit. Si bien qu'elle a à son tour décidé d'imaginer des histoires grandement inspirées de ses lectures et de les raconter à sa grand-mère. Mais le malheur a encore frappé. Sa grand-mère est tombée très malade. Elle n'allait plus pouvoir s'occuper d'elle. Il a donc été décidé que Kim irait rejoindre une tante sur un autre continent. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 10 ans, Kim est montée sur un grand paquebot pour effectuer un long voyage vers un nouveau pays, une nouvelle vie. Elle ne connaissait ni les coutumes ni les langues de ce pays. Mais, au fil du temps, elle s'est familiarisée avec elle tout en gardant précieusement les souvenirs et la langue de son enfance. Adulte, Kim a commencé à enseigner la danse. Puis un jour, une troupe de théâtre lui a proposé de jouer dans une pièce. Elle est ainsi devenue actrice, un peu par hasard. Pour un projet d'émission de télévision pour enfants, elle a dû imaginer son propre personnage. Elle n'a pas eu à chercher longtemps. Elle serait une poupée, avec une robe à crinoline et des joues bien rouges. Elle en avait tant rêvé durant son enfance. Et elle a baptisé sa poupée Fanfreluche. Fanfreluche aimait lire des contes classiques aux enfants, mais attention, à sa manière. Pour donner une chance au personnage de se sauver des griffes du méchant loup ou de la sorcière malveillante, elle entrait dans les livres et tentait de changer le cours de l'histoire. Elle ne pouvait pas accepter les injustices. Sans trop s'en rendre compte, à travers Fanfreluche, Kim reprenait le combat pour la justice et la liberté de ses parents décédés. Quelques années plus tard, Kim a tenu un autre rôle de conteuse dans une série pour enfants. Cette fois, elle personnifiait une grand-mère, rassurante et douce, comme celle qu'elle avait laissée derrière elle dans son pays natal il y a fort longtemps. À travers Fanfreluche, la grand-mère et quelques autres rôles, Kim a permis aux enfants de son pays d'adoption de repousser les limites de leur imagination et de s'élever contre les injustices. J'aurais bien voulu commencer ce conte au présent en disant « Il est une femme à notre époque », mais malheureusement, Kim s'est éteinte il y a quelques jours, après avoir vécu plus d'un siècle, 101 ans. Elle laisse dans le deuil tous les cœurs d'enfants qu'elle a fait vibrer, tous les petits yeux qu'elle a fait briller. Pour les As, elle fut aussi une marraine extraordinaire. Allez lire l'hommage touchant que lui a rendu sa filleule Marie. C'était Gilbert. À une prochaine lecture!
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.